à l'Abre.
En forêt.
L'émission
L'Auxerre-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs.
Avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h.
Et un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Barthès.
107 FM.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, auditeurs de Radio Barthès. Bienvenue dans l'émission Palabre en forêt. Bonjour Margot.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Bonjour Léo.
Bonjour.
voilà, aujourd'hui on va parler de l'eau et de la forêt. Ceci parce qu'il va y avoir des journées techniques en Cévennes organisées par l'association Forêt Méditerranéenne. Ça aura lieu au printemps, les 3 et 4 avril prochains, sur les communes de Saint-Jean-du-Gard, Branoux-les-Taillades et Le Chambon. Et donc ce sont des spécialistes qui viendront sur le terrain pour essayer de mieux faire comprendre les liens entre l'eau et la forêt. Et du coup, Margot.
Du coup, aujourd'hui, on va parler donc de l'eau et la forêt avec Nicolas Martin, qui est chercheur à l'unité de recherche écologie des forêts méditerranéennes à l'INRAE. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire où vous travaillez et nous expliquer un peu quel est votre métier ?
Alors, je travaille donc à Avignon, à l'unité de recherche sur les forêts méditerranéennes, comme vous l'avez dit, qui est une unité INRAE. Donc l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche en Agronomie et Environnement. On a donc à Avignon un pôle dans lequel on est une trentaine de chercheurs environ, une trentaine de chercheurs environ permanents et permanents et techniciens ingénieurs, et on plus des étudiants bien sûr, des post-doctorants, et on travaille sur plusieurs aspects qui ont lien avec la forêt méditerranéenne. Un aspect sur le fonctionnement de l'écosystème, le fonctionnement de l'arbre, comment l'arbre répond au climat, au type de sol. C'est dans cette équipe que je travaille. Une autre équipe qui travaille sur les incendies, et puis une équipe qui travaille sur la génétique plutôt et l'adaptation génétique des forêts au changement de l'environnement, au changement du climat.
Et donc, on va peut-être parler d'abord de l'arbre, comment fonctionne la circulation de l'eau avec les arbres. Alors, comment circule l'eau dans un arbre ?
Alors, c'est une question, en fait, assez. La réponse est simple et compliquée. L'eau circule de façon passive dans l'arbre. Alors, on va dire que c'est la demande évaporative de l'air, le fait que l'air soit sec, qui crée une demande qui permet à l'eau de circuler. En tout cas, c'est pour ce qui est de ce qu'on appelle la sève brute, c'est-à-dire qui est faite principalement d'eau et qui se déplace depuis le sol jusqu'à l'atmosphère. Donc c'est vraiment le fait qu'on ait on appelle ça un gradient de potentiel entre l'atmosphère et le sol qui permet un écoulement et une évaporation de l'eau au niveau des feuilles. Donc je sais pas si ça vous...
C'est comme une sorte de pompe naturelle qui pomperait l'eau du sol vers le ciel.
C'est une pompe naturelle du ciel vers le sol.
Okay.
C'est le ciel qui tire l'eau.
Okay.
C'est le fait que l'atmosphère soit très demandeur en eau qui va tirer l'eau au niveau des feuilles, et cette tension, elle va se répercuter de proche en proche à l'intérieur des tuyaux de l'arbre, du système vasculaire de l'arbre, jusqu'au sol. Et donc, elle est vraiment littéralement tirée par la demande de l'atmosphère qui est très sec.
Et du coup, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'évapotranspiration ?
Alors, pas tout à fait. L'évapotranspiration, ce phénomène en question, c'est la transpiration. C'est ce qui sort par les feuilles de l'arbre, par ce mécanisme de déplacement de l'eau, c'est la transpiration. L'évapotranspiration, c'est quelque chose qui, ça fait référence à l'échelle d'une forêt entière, à l'échelle d'un écosystème, à la somme de l'évaporation et de la transpiration. L'évaporation, c'est toute l'eau qui va s'évaporer vers l'atmosphère, mais pas depuis l'arbre. C'est-à-dire, c'est l'eau qui va s'évaporer directement depuis le sol, ou l'eau libre qui est déposée juste après une pluie sur les feuilles. Celle-ci, le lendemain, quand il fait beau à nouveau, elle va s'évaporer, et ça fait partie de l'évaporation. Donc, en fait, la somme de la transpiration de toute cette eau qui passe à travers le système vasculaire de l'arbre, plus de l'évaporation qui est l'eau sur le sol et l'eau sur les feuilles après une pluie, ça, c'est ça l'évapotranspiration.
Et du coup, est-ce qu'on a une idée de la quantité d'eau qui peut être transpirée par un arbre? Est-ce que ça dépend des essences? Est-ce qu'on a des chiffres un peu sur ces données-là?
Alors, c'est très variable parce que ça dépend en effet de plein de choses. Déjà, ça dépend de si l'arbre a des feuilles ou pas. Donc, en hiver, par exemple, la transpiration d'un arbre, elle va être proche de zéro. Alors qu'au printemps, quand le sol est gorgé d'eau et que les conditions atmosphériques sont très demandeuses, c'est-à-dire qu'il fait chaud et sec dans l'atmosphère, ça peut être considérable. Et ça peut atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de litres par jour si on a affaire à un très gros arbre. Voilà, typiquement, ça varie d'une dizaine à une centaine de litres par jour pour des conditions très favorables d'eau dans le sol et très demandeuses dans l'atmosphère. Donc, une belle journée, un très gros arbre, ça peut faire 200 litres par jour. Mais c'est un maximum.
Et que ce soit des feuillus ou des résineux ?
Que ce soit des feuillus ou des résineux, oui, après, ça va quand même dépendre des essences. Ça va dépendre des essences. Il y a des essences qui sont très consommatrices, comme par exemple les eucalyptus. Ça va consommer beaucoup d'eau. Les essences souvent les plus productives et les plus rapides à produire vont consommer plus d'eau. Les essences qui développent aussi beaucoup de feuillage vont consommer plus d'eau. Ensuite, ça va surtout, on va dire, au premier ordre, dépendre de la taille de l'arbre. Donc c'est vraiment un très gros arbre consomme plus d'eau qu'un petit arbre. C'est normal parce que c'est vraiment la surface de feuilles qui transpire.
D'accord, merci.
Est-ce que si on résume, une forêt de bonsaï consomme beaucoup moins qu'une forêt de très gros arbres donc.
Oui, tout à fait.
Donc si on en rigolant un peu, si on voulait limiter la consommation de nos forêts, il faudrait s'amuser à les tailler quoi. Comme des bonsaïs.
En fait, c'est tout à fait vrai. Et puis d'ailleurs, on parle souvent à l'ONF, à l'INRAE ou même ailleurs dans la gestion forestière en général, de sylviculture économe en eau. Donc, il y a une sylviculture dans laquelle on va essayer d'adapter la surface foliaire du peuplement en réduisant le nombre d'arbres, par exemple, ou pourquoi pas en élaguant, même si c'est quand même plus compliqué, de telle sorte qu'on limite la consommation d'eau. Ça peut être dans des conditions de sécheresse un bienfait pour l'arbre et la forêt dans certaines conditions parce que les sécheresses prononcées vont avoir des effets délétères sur les arbres. On le remarque d'ailleurs de plus en plus avec le changement climatique.
Bien sûr. Et on va vous poser une question sans langue de bois. D'après vous, parce que voilà, on est en Cévennes, on a des enjeux locaux. Et d'après vous, est-ce qu'on peut vraiment accuser le pin maritime de pomper l'eau des Cévennes ?
La question, en fait, est étrange en soi, parce que ça dépend de qu'est-ce qu'il y a à la place du pin maritime.
S'il n'y a pas le pin maritime, il n'y aurait pas grand-chose, parce qu'on est sur des sols un peu pauvres.
Le pin maritime remplace une forêt parce que dans le passé
il remplace l'agriculture
il
en
remplace
fait
le verger de châtaignier à la limite le verger de châtaignier
oui
est-ce que verger de châtaignier était moins consommateur en eau que les forêts de pin
c'est pas gagné. Ouais. Si on remplace une forêt de châtaignier par une forêt de pin je pense que les consommations sont tout à fait comparables. C'est là où la question est délicate, c'est que ça dépend de l'usage par lequel on remplacerait ces forêts-là. Je pense que dans le passé, avant l'avènement des hommes, les Cévennes étaient très probablement couvertes de différentes forêts, de châtaigniers, de chênes, qui consommaient probablement autant d'eau que les pins aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'une prairie ou une zone agricole consommera moins, notamment pendant la période estivale, parce que les racines sont moins profondes des prairies et des cultures, et que la production souvent est limitée aux périodes de disponibilité en eau, donc avant l'été, quoi. Et en hiver aussi, on a aussi. C'est vrai que les espèces impervirentes continuent d'utiliser l'eau en hiver. Après, l'eau est très disponible en hiver, donc c'est moins un problème. Mais c'est vraiment par quoi on remplace. C'est ça qu'il faut regarder. C'est qu'est-ce qu'il y aurait à la place. Je pense pas que ce soit souhaitable d'avoir un sol nu.
Non, c'est sûr. Mais parfois, on peut penser que il suffit juste d'enlever une essence et de planter, par exemple, des feuillus à la place. Sauf que ça marche pas comme ça. Les feuillus, ils ont des demandes au niveau du sol, au niveau de la nourriture, tout ça, voilà. Et donc, il faut un sol qui soit assez, mature pour ça. Et donc, par exemple, les pins préparent le sol à venir pour les feuillus, mais dans longtemps.
Oui, il faut tout à fait. Il faut qu'il y ait une pédogenèse et il faut faire des choses progressives. Après, on peut, les plantations peuvent être mélangées. C'est quand même, on doit trouver. Il y a d'autres solutions que le pain maritime à tout prix, quoi. Mais si la question c'est, forêt contre forêt, c'est pas sur la. Là, on rentre dans d'autres questions que seulement la consommation d'eau. On rentre dans qu'est-ce que c'est qu'une forêt. Est-ce que une plantation de pain maritime, c'est la même chose qu'une plantation mixte avec des résineux, des feuillus, et probablement que c'est très différent. Mais c'est pas la même. Du point de vue de la consommation d'eau, ce sera probablement pas très différent. D'accord. Par contre, du point de vue de tout un tas d'autres services, parce que la forêt. Faut pas oublier, la forêt, c'est multifonctionnel. Forêt, c'est un cycle de l'eau, mais c'est aussi un cycle du carbone avec une séquestration du carbone. Mmh. C'est aussi de la production de bois. C'est aussi un abri de biodiversité. On a vraiment la protection des sols.
Oui.
Tant de fonctions on va probablement pas jouer beaucoup sur l'eau en changeant la façon et les espèces qu'on mettrait en place, mais on peut améliorer d'autres services par contre.
Et pour revenir du coup à l'échelle d'un arbre, lorsque il a plus la possibilité ou moins la possibilité de prendre de l'eau dans le sol, est-ce qu'il a des mécanismes de défense du coup pour lutter contre la sécheresse ?
Alors oui, alors c'est complètement mon sujet de recherche, donc va falloir m'arrêter parce que je pourrais en parler pendant très longtemps. Donc les arbres sont extrêmement sont sensibles à la sécheresse parce que comme on le disait, quand ils ont des feuilles pendant la période pour les feuillus, en tout cas pour les feuillus décidus qui produisent leurs feuilles pendant une saison de végétation qui n'est pas l'année entière, les arbres donc ont besoin de l'eau pour fonctionner, ils consomment beaucoup d'eau. Et donc quand l'eau vient à manquer, il y a tout un tas de mécanismes qui sont mis en place par les arbres. Certains sont universels. Par exemple, le premier, c'est la fermeture des stomates. Donc les stomates, c'est ces petits orifices qui sont quasiment invisibles à l'œil nu, à la surface des feuilles, qui est l'endroit par lequel l'eau est évacuée lors de la transpiration, dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi le même endroit par lequel, d'ailleurs, le CO2 est absorbé et qui donc permet la photosynthèse, la croissance de l'arbre et la séquestration du carbone. Donc, en conditions de sécheresse, ce qui se passe, c'est que les arbres économisent l'eau en fermant ses stomates. Donc, ils économisent l'eau, mais par la même occasion, ils perdent la possibilité de réaliser de la photosynthèse parce qu'il y a moins de CO2 qui peut rentrer dans les feuilles. Ensuite, malgré tout, même si les pertes en eau sont réduites, elles sont pas complètement réduites et il y a des pertes cuticulaires à travers les feuilles, même à travers l'écorce. Et donc, s'il n'y a pas de pluie, l'arbre progressivement se met à. Il y a un phénomène qui s'appelle la cavitation, qui est le fait que les bulles d'air vont rentrer dans le système vasculaire de l'arbre et vont empêcher l'eau de pouvoir circuler. Et donc ça c'est vraiment le mécanisme qui va conduire au dessèchement des arbres. Et donc quand on arrive à des stades ultimes de cavitation, qui entraînent des embolies en fait, ça cause des embolies du système vasculaire à des stades de 80 ou 90% d'embolie, on observe la mortalité des arbres et c'est le phénomène aujourd'hui, un des phénomènes les plus catastrophiques puisque c'est ça qui peut entraîner la mortalité en condition de sécheresse. Mais les arbres, sont pas tous égaux face à cette résistance à l'embolie en fait, et puis certains sont très résistants et d'autres moins résistants. Le chêne vert est très résistant par exemple, le pin d'Alep est très résistant, alors que le peuplier l'est beaucoup moins.
Merci. On va vous proposer une petite pause musicale et je crois que c'est Aymeric qui va nous l'annoncer.
J'ai proposé quelque chose qui va très bien dans le thème, mais qui n'a un peu rien à voir quand on écoute les paroles, mais c'est pas grave. C'est « Je suis liquide » de Jeanne Chéral.
Non, je ne suis crie pas forte, mais je ne veux pas qu'on me porte. Non, je ne suis pas forte, mais je ne veux pas qu'on m'escorte. Non, je ne suis pas forte, mais jamais ne m'arrêterai. Non, je ne suis pas grande, mais je ne veux pas qu'on m'attende. Non, je ne suis pas grande, mais je voudrais bien qu'on m'entende. Non, je ne suis pas grande, mais jamais ne m'allongerai. Non, je ne suis pas solide, ça c'est la nature qui décide. Non, je ne suis pas solide, je suis cassable, je suis passable, je suis liquide. Non, je ne suis pas belle, mais je ne veux pas qu'on me le rappelle. Non, je ne suis pas belle, mais ça dépend à quelle échelle. Non, je ne suis pas belle, mais tout arrive, on sait jamais. Non, je ne suis pas solide, ça c'est la nature qui décide. Non, je ne suis pas solide, je suis cassable, je suis jetable. Je suis liquide de soirée de confusion, je suis liquide comme la lave en fusion. Je suis liquide et deviens flac en un clin d'œil. Je suis liquide comme rosée sur les feuilles. Je suis liquide en écoutant couler mes veines. Je suis liquide en regardant couler la Seine. Je suis liquide quand je t'ouvre mon sillage. Je suis liquide et je t'accueille en mon village. Non, je ne suis pas solide, ça c'est la nature qui décide.
Vous êtes toujours sur Radio Barthas 107 FM. Nous sommes avec Nicolas Martin, qui est chercheur sur les questions de l'eau et des relations avec la forêt. Et on va continuer parce qu'on a encore plein de questions. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du coup de l'influence d'une forêt sur le cycle de l'eau ? J'imagine que les relations sont complexes, mais est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur cette question ?
Oui, alors je peux essayer. Donc, une forêt, donc ça a plusieurs effets sur le cycle de l'eau. Donc la première chose, c'est si on regarde les précipitations, la pluie qui tombe. Un des premiers phénomènes des forêts, c'est que ça va dans le feuillage intercepter une partie de l'eau de pluie. Ça intercepte en général une très faible partie. Le réservoir d'une canopée, il excède pas 4 à 5 millimètres. Donc dès qu'une pluie un peu significative, l'eau va rapidement s'écouler au travers des feuilles et le long des troncs. Mais voilà, le premier phénomène, c'est l'interception d'une partie de la pluie. Ensuite, on a un phénomène de transpiration, qui est ce dont on parlait au début, c'est-à-dire le fait que les arbres utilisent l'eau et l'évacuent à la surface des feuilles. Et donc, ce phénomène de transpiration qui représente... Ça dépend vraiment des sites hein, et des types de forêts, mais ça peut représenter entre 40 et 70% maximum de l'eau de pluie qui tombe chaque année. Ensuite, on a l'évaporation dont on a parlé aussi. C'est pas directement lié aux arbres, c'est l'eau qui est évaporée directement depuis le sol où depuis les feuilles, après une pluie, l'eau qui tombe sur les feuilles va se réévaporer, l'eau qui tombe dans le sol, les sols humides, les litières humides, l'eau qui est contenue dans les litières humides après une pluie va s'évaporer aussi. Donc on a aussi ce phénomène. Ensuite, dans le sol, on a des phénomènes tels que le drainage, c'est le passage de l'eau de couche en couche jusqu'à des réservoirs profonds, dans le karst, dans les milieux karstiques ou dans des nappes. Et puis voilà, là, je pense qu'on a fait le tour à peu près des phénomènes à l'échelle d'une parcelle forestière qui sont liés au cycle de l'eau. Donc globalement, c'est ce qui rentre avec la pluie, l'interception, et ce qui sort, l'évaporation et la transpiration.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose dont tu as peut-être entendu parler ? Moi, j'avais compris qu'au-dessus d'une forêt,
oui.
En moyenne, la présence de la forêt améliore la pluviométrie sur cette zone-là. En l'absence de cette forêt, il pleut moins sur cette zone-là que s'il n'y avait pas de forêt. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on observe dans les pays tropicaux, au-dessus des forêts tropicales, fait que la forêt respire et tous les éléments qui traînent au-dessus d'une forêt font que ça capte plus facilement les nuages.
C'est des choses dont je suis pas spécialiste, mais oui, on va dire que c'est vrai, mais c'est des phénomènes qui se jouent à des échelles très importantes, oui. Et surtout, en effet, dans des forêts tropicales. Non pas que ce soit faux en Europe. Il y a probablement des épisodes de pluie estivaux qui sont du recyclage de l'eau terrestre. Et d'ailleurs, en fait, il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a une partie significative de l'eau de pluie qui tombe, qui est de la pluie terrestre, c'est-à-dire c'est pas de l'eau qui vient de l'évaporation de la mer et qui a été apportée par les vents, c'est de l'eau qui vient de la transpiration, de l'évapotranspiration des forêts. Donc ce phénomène, il est réel, mais par contre, il se joue pas à l'échelle d'une parcelle forestière, il se joue à l'échelle d'un continent entier. Et d'ailleurs, on voit bien que, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a une relation forte à la distance à la côte. Il faut plusieurs centaines de kilomètres de distance à la côte pour commencer à voir une présence significative de l'eau recyclée localement. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que ce phénomène existe, mais qu'il faut donc des très grandes surfaces forestières, et puis qu'il est d'autant plus fort qu'on est loin d'un océan ou d'une mer qui pourrait normalement. Sinon, c'est plutôt la mer et l'océan qui apportent la pluie.
Et il faut qu'elles soient matures ou pas, vous pensez, ces forêts?
Est-ce que ça a un lien avec la maturité? Oui. Probablement que je suis des. Je ne sais pas ça. Je n'ai pas vraiment de.
On n'a pas encore. De données.
Ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment. En fait, c'est comme je le disais, c'est vraiment une histoire d'échelle spatiale. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut pas regarder pour une forêt. Donc, j'avais le sentiment que là que tu me parlais d'une forêt, une forêt. Quand on pense une forêt, on imagine, je sais pas, un hectare, quelque chose qu'on peut visualiser comme ça. En fait, ces phénomènes de recyclage de la pluie terrestre, c'est quelque chose qui est à l'échelle de millions d'hectares. Donc on est donc à l'intérieur de millions d'hectares, et on peut s'imaginer que c'est pas des forêts matures, des forêts pas matures, il y a de tout. Et dans un million d'hectares, il y a des endroits où il y a des trouées avec des forêts complètement immatures qui sont en train de naître, et puis il y a des endroits où on aura des forêts très matures. Donc en fait, quand on est sur des très grands espaces comme ça, on a un peu de tout. Je sais pas si c'est clair.
Très clair.
Merci. Et on n'a pas parlé encore de la qualité de l'eau. Est-ce que une forêt a une influence sur la qualité des eaux ?
Alors, est-ce qu'elle a une influence directement ? Non, mais c'est un peu la. Mais par contre, ça dépend à quoi on la compare et qu'est-ce qu'on met à la place d'une forêt. Si on met un parking, ça va pas être terrible. Si on met une prairie ou une zone d'agriculture intensive, ça va pas être génial non plus sur la qualité de l'eau. L'avantage de la forêt, c'est que quelque part, elle a un rôle de protection. En général, dans une forêt, il y a peu d'activités humaines, en fait, et c'est cet effet-là qu'on dit qu'elle a un effet sur la qualité de l'eau. C'est le fait que dans une forêt, une zone refuge à l'abri des activités humaines qui pourraient polluer l'eau.
D'accord. Par son action de protection des sols ?
Eh bien, oui, par son action de protection des sols, et puis par son action de tout simplement du fait que dans une forêt, on va pas mettre de fertilisants, on va pas faire passer des troupeaux qui vont localement enrichir très très fort l'eau en nitrate. Je sais pas si c'est seulement une histoire de protection des sols ou de protection du lieu, du fait que la forêt finalement, il y a moins d'usage humain en forêt.
Mmh. Merci.
Et alors, est-ce qu'il existerait un type de forêt idéal, ou alors quel conseil vous pourriez donner pour améliorer la disponibilité en eau et la qualité de l'eau au sein d'un massif forestier?
Alors, là, c'est un peu le corollaire de ce que je disais, c'est-à-dire un massif forestier, par définition, ça protège l'eau parce que c'est une barrière à des usages concurrentiels qui pourraient, eux, polluer l'eau. Donc, le simple fait d'avoir une forêt, probablement, si on met, si on remplace la forêt par de l'agriculture, par de la prairie qui sera pâturée, par même des panneaux photovoltaïques dans lesquels on va faire des installations, la forêt vraisemblablement va protéger le lieu, créer une forme de sanctuaire, on pourrait dire, qui donc va protéger l'eau. Donc en soi, ce sera plutôt bien, à part le fait qu'elle va aussi la consommer, mais on va avoir localement aussi une protection. Après, est-ce qu'il y a des types de forêts qui sont plus performants pour la gestion de l'eau? Ça, je pense pas qu'il y ait de consensus fort aujourd'hui. On étudie ces questions, on essaye de savoir si certaines associations d'espèces pourraient permettre de maintenir une production, un niveau de diversité, tout en ayant un rôle sur la ressource en eau. Mais la question est très compliquée. Je pense que c'est marginal, parce que de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, c'est la quantité de feuillage. Dans la mesure où on a une forêt, ça va consommer de l'eau. Donc en fait, il y a un antagonisme à un moment. Il faut pas se leurrer là-dessus. Une forêt, ça protège l'eau, mais ça la consomme aussi. On peut pas éviter ça. Alors il y a peut-être certains mélanges, associations qui pourraient être légèrement, mais ce sera à la marge, et je pense pas qu'on les connaisse bien aujourd'hui.
Je suis une propriétaire propriété forestière. Des gestes à court terme pour que ma forêt améliore son rôle par rapport à l'eau. Vous avez parlé de sylviculture tout à l'heure adaptée. Voilà, quels pourraient être les conseils?
Je pense que ça dépend de l'objectif du propriétaire forestier et du sylviculteur. Je pense qu'il y a vraiment... Moi, je dirais que maintenir la forêt, c'est probablement une bonne chose. Essayer de maintenir la production de la forêt, et si on a un objectif de production et la résistance au stress hydrique, ça peut passer par une sylviculture économe en eau, c'est-à-dire une réduction de la surface foliaire pour maintenir des niveaux de surface foliaire légèrement inférieurs. Mais il faut faire attention, parce que ça peut avoir des contreparties, hein. Ça peut altérer le microclimat en sous-bois et donc altérer la régénération. J'ai pas de réponse simple là-dessus à proposer.
C'est du cas par cas. Ok.
Moi, si je peux rajouter mon grain de sel, on en a souvent parlé de savoir que planter à quel endroit. Souvent, l'observation de ce qui se passe dans les dynamiques forestières autour de soi, c'est déjà ce que nous indique la nature. S'il y a des espèces qui fonctionnent bien, c'est qu'a priori, elles sont adaptées à la ressource en eau. Et il faut aller dans ce sens. On ne va pas s'amuser à planter des eucalyptus qu'on sait particulièrement gourmands en eau, par exemple. Et on va se tourner vers les essences qui fonctionnent bien déjà. Je pense typiquement cèdre et pin maritime sont des essences relativement frugales. Mais chêne vert, pourquoi pas, même si ce n'est pas vraiment un bois d'œuvre, ça pourrait faire aussi. Quoi.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une très, très bonne remarque. On pourrait ajouter que... Il y a cette pression du changement climatique, je pense qu'il doit être observé par les propriétaires forestiers en Cévennes, qui fait que je pense que beaucoup se posent la question de est-ce qu'il faut changer d'essence, faire quelque chose. Là, il y a probablement aussi des choses à creuser, et on conduit beaucoup de travaux en ce moment pour essayer de savoir s'il y aurait des provenances. Des populations particulières, par exemple sur des massifs exposés un peu plus au sud, utiliser des ressources pour une même espèce, des populations qui seraient un peu plus exposées à la sécheresse, mais dans le même environnement, c'est-à-dire dans la même emprise géographique, aller chercher les zones les plus exposées sur les sols les plus superficiels pour pouvoir aider l'adaptation au changement climatique, ça peut aussi être une bonne idée.
Et oui, le pain de Salzmann est souvent revenu dans les discussions puisque c'est un pain très frugal.
Oui.
Et qu'il est probablement, il aura son épingle à tirer au jeu du changement climatique à venir, ouais. et même actuel, on va dire.
On rappelle que c'est le pain originaire des Cévennes.
Oui, c'est un des rares pains autochtones. En Cévennes, avec le pain sylvestre plutôt sur les hauteurs, et qui est très présent en Espagne et qui est à l'état de population relictuel, mais dans des coins où il a été quasiment pas exploité, dans des milieux très très pauvres. Du coup, on donne l'impression que c'est un arbre de milieu pauvre, ce qui est probablement le cas, mais il peut aussi pousser dans des endroits plus riches. Donc il pourrait bien faire...
Oui, il est très utilisé. D'ailleurs, les départements du nord de la France testent de plus en plus sa plantation. Et du coup, il nous en reste plus en pépinière.
Hein, il y a de la concurrence sur ces arbres adaptés.
Et voilà, mais non, mais pour dire que oui, c'est pour ces capacités frugales, comme tu dis, qu'il est recherché.
Et alors, Nicolas, pour conclure cet échange, est-ce que vous auriez un petit mot forestier à nous partager ?
Alors, j'ai peut-être juste une de mes dernières expériences en forêt. Donc, on travaille sur un projet européen en ce moment dans lequel on étudie justement la variabilité de résistance à la sécheresse à l'intérieur des espèces. Et donc, pour ça, on va échantillonner différents massifs forestiers partout en Europe. Pour différentes espèces, donc on a traité le pin sylvestre justement, le hêtre, le chêne, on a fait l'épicéa, on va faire le sapin bientôt, dernièrement on s'est rendu en forêt. En fait, pour ça, on est avec une équipe, on y va généralement à une équipe de 4 ou 5 parce qu'il faut qu'on monte dans les arbres pour échantillonner des branches exposées à la lumière et les ramener. Et donc, en faisant cette expérience, en allant travailler sur le terrain avec les collègues, j'ai pu monter à la cime des arbres et puis j'ai pour collecter des branches et j'ai vraiment apprécié cette quiétude qu'on a quand on est sur des perchés à des chaînes de 30 mètres de haut en train de regarder le haut de la canopée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et donc, je voulais aussi faire un clin d'œil à tous mes collègues avec lesquels on conduit ce projet-là qui est vraiment colossal. Et j'espère que ça va amener des informations pour aider à l'adaptation des forêts au changement climatique, d'ailleurs.
Eh bien, merci d'avoir partagé cette sensation. Et on rappelle justement, par rapport aux journées techniques organisées par l'association Forêt Méditerranéenne, les 3 et 4 avril prochains, vous pouvez vous inscrire, notamment si vous êtes propriétaire forestier, ou pas, voilà. Il suffit de se rendre sur leur site www.forêt-méditerranéenne.org. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais ce sera bientôt le moment. Merci Nicolas Martin.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Place maintenant à Aymeric Sulmont, qui est toujours garde-moniteur au Parc national des Cévennes, pour sa rubrique Plantes et animaux des bois.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Alors Aymeric, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui ?
Eh bien, je me suis adapté non pas au changement climatique, mais à la saison. Et je me suis tout simplement tourné vers qu'est-ce qui poussait en ce moment à proximité des maisons, dans les forêts, tout ça. Alors, je suppose que si vous regardez, qu'est-ce que vous avez vu en fleurs là, ces derniers temps ?
Ouais, des petites violettes, par exemple.
Ah, voilà, des violettes, mais toi, tu connais la réponse. Non, mais il y a aussi des personnages. Il y a des gagées, pour ceux qui connaissent les gagées en ce moment, il y a des hélébores, les fameuses roses de Noël, des véroniques qui sortent, et des crocus. Et j'en passe, il y en a plein d'autres. Et effectivement, je voulais faire un petit topo sur les violettes. Et c'est une plante qui est bien à la mode en ce moment, contre la toux et les bronches. C'est justement ce qui m'arrive depuis un petit moment. Donc, en faisant cette chronique, je me suis rendu compte que c'est un excellent remède contre la toux et les bronchites, les violettes. Donc, des sirops de violette, des fleurs de violette. On peut manger les fleurs de violette, notamment la violette odorante.
Et on en fait des bonbons.
Mais avant de rentrer dans les petits détails, j'aime bien utiliser ce bouquin que je vous présente plus, là, le petit langage des fleurs. Parce que dans ce petit langage des fleurs, chaque fleur est associée à un message caché. Donc, si vous offrez un bouquet de violettes à quelqu'un, c'est que vous vouliez lui témoigner une certaine modestie, une pudeur. Et tout ça, c'est justifié par un petit poème. Du coup, je voulais un petit poème. Je vais essayer de ne pas tousser dans le poème. C'est un petit poème de Louis Ratisbonne. Et il dit « Quand Flore, la reine des fleurs, eut fait naître la violette, avec de charmantes couleurs, les plus tendres de la palette, avec le corps d'un papillon et ce délicieux arôme qui le trahit dans le sillon, enfant de mon chaste royaume, quel don puis-je encore attacher ? Dis, Flore, à ta grâce céleste, donne-moi, dit la fleur modeste, un peu d'herbe pour me cacher. » Et effectivement, c'est bien la violette qu'on trouve partout autour des maisons. Surtout la violette odorante, hein, je pense notamment à elle, et qui aime bien se cacher le long des... Elle n'est pas très visible, mais elle est là. Elle est bien présente et partout. Et elle est facile à récolter. Et ça peut égayer vos petites salades de printemps, des petites fleurs de violette qui ont un doux... Et ce n'est pas désagréable à manger, c'est doux. Et voilà, alors c'était ma petite introduction sur les violettes. Les violettes, c'est un sujet important parce qu'on connaît très mal, en fait. C'est un groupe assez difficile, en fait. Savez combien il y a d'espèces de violettes rien qu'en Cévennes.
On tente de parler. Ok, 20.
Ah non, c'est un peu trop. Donc il y a 14 espèces de violettes. C'est déjà pas mal.
Ah ben ça, oui.
Et sur ces 14, il y en a plusieurs qui sont assez rares. La plus rare a été trouvée il y a seulement une quinzaine d'années dans le parc des Cévennes. Et c'est la violette de Buban, qui était une violette qui était connue que dans le Montagne Noire et dans les Pyrénées, et dont la seule localité la plus au nord, en fait, au nord-est du Massif Central, c'est celle des Cévennes. C'est très curieux, cette violette Buban qui a été découverte récemment. Et en dehors de ces petites, raretés, il y a deux espèces aussi assez rares sur les côtes, la violette suave et la violette mirabelle, qui sont deux belles violettes. Et c'est un groupe qui est assez intéressant parce qu'il a une originalité de répartition. Je crois que j'en avais déjà parlé ici. Les violettes ont en point commun d'être myrmécocores. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ?
Fourmi ?
C'est ça. Myrmeco, ça fait relation à la fourmi. Et core, c'est H-O-R-E, c'est le transport des graines. Le transport des graines des violettes est assuré principalement par les fourmis.
D'accord.
Et pour quelle raison ? Parce qu'elles ont les graines de fourmis... Les graines de violettes ont, comme beaucoup d'espèces, une excroissance très particulière, qui est très riche en lipides et en protéines, qu'on appelle élaiosomes. Alors là, je vous donne des mots barbares. Mais disons que sur ces graines-là, il y a à manger pour les larves. Et les fourmis en sont très friandes et elles vont transporter avec avidité toutes les graines des violettes dans leur fourmilière. Et elles vont s'occuper dans la fourmilière de séparer la graine de cette petite excroissance qui n'a pas de fonction vraiment pour la graine, à part d'être transportée gratuitement par les fourmis. Et une fois que cette petite excroissance a servi à nourrir les larves, la graine, servant à rien, est évacuée de la fourmilière et est, entre guillemets, jetée dans la poubelle de la fourmilière en compagnie d'un paquet de nutriments, de cadavres, de fourmis, qui vont l'aider à pousser. Et si vous regardez la répartition des violettes, sont souvent liées au trajet des fourmis qui rejettent les graines à l'extérieur de la fourmilière.
Parce que j'allais te demander si elles avaient des types de forêts préférées, mais en fait, c'est vraiment en lien...
Alors, cette espèce d'adaptation d'un certain nombre de graines, enfin de plantes, qui développent une excroissance riche en protéines et en lipides, qui convient parfaitement à l'alimentation des larves de fourmis, elle a été développée par plein d'espèces, et qui sont justement, pour certaines, qui vont aider à évaluer l'ancienneté d'une forêt. Alors, je vous fais un raccourci là, en disant ça, mais les grandes étendues de populations d'espèces qui sont dont le transport des graines est assuré par les fourmis, nous renseignent sur le fait que pour faire des grandes étendues, par exemple d'anémone des bois, qui est également une plante qui est transportée par les fourmis, il faut un certain temps. Il faut plusieurs générations et des générations de fourmis pour que cette plante se répartisse sur toute la forêt. Et plus vous avez donc des forêts avec des anémones des bois qui sont réparties partout, et il y a plein d'autres espèces, il y a aussi des lusules qui fonctionnent comme ça, et un certain nombre de carex, et ben ça marque, ça signe que cette forêt, elle a mis longtemps à se mettre en place. C'est-à-dire, vous pouvez à petite échelle comparer avec des personnages. Si vous avez eu des personnages dans votre forêt ou du muguet, c'est les mêmes propriétés. Petit à petit, au fil des années, votre petite tache de personnage que vous avez planté s'agrandit et se dissémine le long des voies des autoroutes de fourmis. Et plus votre plantation est ancienne, et plus la tache de personnages dans votre jardin sera étendue et grande. Et ça, c'est grâce aux fourmis. Et indirectement, on pourrait presque faire un lien entre l'étendue de cette tâche de personnages que vous avez dans le jardin et l'âge de la plantation. Il y aurait certainement un lien. C'est pas aussi simple que ça, mais voilà. D'où l'importance en fait des fourmis dans la dissémination des graines. Dans évidemment le recyclage de la matière organique, et puis ça remue énormément de sol en forêt. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé, il y a un site qui est très intéressant, ceux qui veulent aller voir, Myrmécocori. Alors Myrmécocori, ça s'écrit myrmecocori.free.fr. Et là, il y a quelqu'un qui s'est amusé à répertorier toutes les espèces connues pour être myrmécocores transportées, et il y en a des centaines. Il y a plus de 300, enfin pas loin de 300 espèces qui ont été répertoriées, sans doute beaucoup plus, et dont la dissémination est pleinement liée aux fourmis. Donc je vous cite quelques genres très connus, hein, les potentilles, les narcisses, beaucoup de graminées, des lamiers, les lébores, les euphorbes, le fraisier des bois qu'on adore, s'il n'y avait pas les fourmis, il serait beaucoup moins disséminé, les corydales, les os, le buis, enfin plein de carex, même la clématite peut être disséminée par ces fourmis. Et donc voilà, on commande d'une violette, on passe aux fourmis et aux forêts anciennes. C'était un peu l'objet de ce petit focus sur les forêts. Les violettes, je n'ai pas parlé de toutes les... Ah si, je fais un très court digression.
Si vous voyez le studio,
j'utilise mon autre Bible.
Les ouvrages des Bibles.
J'aime beaucoup ça. C'est que, évidemment, j'ai un bouquin qui s'appelle, je le cite encore une fois, c'est un traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes. Je préfère tout de suite préciser qu'il date de 1868. Donc tout ce que je raconte et que je lis dans ce bouquin, c'est à prendre avec des grosses, grosses pincettes, parce que je vous donne pas des remèdes du tout. Mais j'aime bien savoir en tout cas à quoi était utilisée la violette autrefois.
Oui.
Et la violette avait plein, plein de vertus. Mais il faut s'en méfier. Donc je disais en tout début qu'elle soigne la toux, etc. Mais elle a causé, d'après certains spécialistes, l'arôme de la violette odorante concentrée dans un appartement fermé peut donner lieu à divers accidents tels que la céphalagie, en gros le mal de tête, la syncope et même l'asphyxie. Donc prudence, si vous faites un gros bouquet de violettes, quand on lit ça, on est assez inquiet, mais en fait, il faut faire preuve de mesure et de recul par rapport à ces bouquins. Mais le même auteur cite l'histoire d'une dame qui mourut d'apoplexie, c'est-à-dire d'une brusque chute de tension, enfin, elle est tombée dans les pommes, après avoir conservé la nuit un pot de violette près de son lit. C'est terrible. La violette va avoir une mauvaise presse après cette histoire. Bref, c'était juste pour donner deux, trois blagues. Sinon, la racine de violette a des usages qu'on appelle émétique. Émétique, ça veut dire vomitif, tout simplement.
Mmh.
Et si vous utilisez la poudre de cette racine, c'est vomitif. Mais si vous utilisez les infusions, la décoction, c'est plutôt purgatif. Voilà. Bon, c'est des petits remèdes que je vous déconseillerais directement.
<De suivre.
rire> Mais par contre, c'est vrai que les sirops de violette, ça soulage la toux. Et moi, j'en aurais bien besoin en ce moment.
Oui, merci Émeric d'avoir fait l'émission.
Je me suis fait une chronique pour moi-même.
Malade.
À bientôt.
Merci Aymeric, à bientôt. La mission de Palabre en forêt s'achève. Est-ce qu'on ne rappellerait pas un petit peu, jusqu'à ce qu'on soit en juin, hein, qu'il y aura la fête de la forêt à la Grand Combe? Ce sera le 16 juin, retenez-la bien dans l'agenda, ce sera merveilleux. Merci Margot,
merci
Léo,
Virginie,
merci Aymeric.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.